Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Nous accueillons de nouveau Jean-Paul Desprats pour nous parler, cette fois, d'un ouvrage plus ancien publié chez Perrin il y a presque une vingtaine d'années, consacré à une des grandes figures de la diplomatie française qui se trouve être aussi une grande figure d'église, peut-être un peu oubliée. Il s'agit du cardinal de Berny. François-Joachim de Berny est né en Ardèche en mai 1715, juste avant la mort de Louis XIV, dans une famille de vieille noblesse. Jean-Paul Desprats, vous dites que très tôt, ses parents, qui n'ont pas de fortune, ont envisagé de le faire d'église. Et vous avez cité cette très jolie formule du futur cardinal de Berny, « Je n'ai jamais rien tant aimé que Dieu ». Pourtant, cette vocation, avant de se concrétiser, va connaître de très nombreuses traverses.
Oui, Bernice est un, donc comme vous le dites, est un enfant de l'Ardèche dans un pays qui est sur les retombées des pays protestants. Et on ne peut pas dire que sa vocation ait été immédiate. Il a déjà, tout jeune, une vocation de poète, plus qu'une une vocation religieuse. Et c'est dans la nécessité qu'il va d'abord envisager effectivement d'être chevalier de Malte et de commencer des études qu'il va commencer dans le Vivarais à Viviers, hein, là où se trouve la cathédrale de son pays d'enfance. Et ensuite, en 1729, il partira à Paris avec son frère et lui va rentrer au collège des Jésuites de la rue de, au collège Louis-le-Grand.
Il va ensuite entrer au séminaire de Saint-Sulpice, puisqu'on l'appelle la pépinière des évêques, puisqu'il se destine à l'église et à l'épiscopat. Et il va être pris en grippe par ses professeurs qui estiment qu'il n'a pas du tout l'étoffe d'un prêtre ni d'un évêque, qu'il le voit comme un jeune mondain. Il va ensuite essayer d'obtenir les faveurs du puissant cardinal de Fleury, qui le prend immédiatement en grippe. Le cardinal va lui dire que lui vivant, le jeune abbé n'aura absolument rien. Et le jeune Bernice a une réplique d'une drôlerie folle. Le cardinal de Fleury a plus de 90 ans. Le jeune Bernice répond « J'attendrai, monseigneur », ce qui est d'une insolence délicieuse qui va d'une certaine manière assurer sa fortune dans les salons.
Voilà. Alors donc, effectivement, le passage des Jésuites, où il va, chez les Jésuites, la pédagogie est une pédagogie très plaisante et qui va lui plaire par un côté de cette pédagogie qui est le goût que les Jésuites ont pour le théâtre. Et c'est là où il va avoir ses grands maîtres, le révérend père Tournemire, le révérend père Poré et le révérend père Lassante, qui vont toute sa vie l'encourager, le suivre, et avec qui il sera en correspondance. Et effectivement, la rentrée au séminaire en 1732, pour lui, c'est quelque chose d'épouvantable. Il va parler, quand il parlera de ce séminaire, il va inventer un très joli mot, il va dire les pratiques minutielles. Et là, il va se heurter à Monsieur Couturier, qui est le directeur des études, et qui lui dit « On ne va pas ici au théâtre, c'est-à-dire par antinomie à ce que vous avez appris chez les Jésuites, dans les astres et dans l'algèbre. » Alors ça, c'était son côté poète, puisqu'il avait déjà écrit des poèmes quand il était dans son Vivarais. « On va à Dieu et on y marche nu. » Alors, comme il dit, c'était des paroles absolument terribles. Alors, il a des vacances, malgré tout, pendant ce séminaire. Vous savez que le séminaire de Saint-Sulpice avait une maison de campagne qui était l'ancienne maison de la reine Margot à Issy-les-Moulineaux, où plus tard s'installera le grand séminaire de Paris. Et c'est là où il va passer les vacances, pendant, puisqu'il ne revient pas dans son pays. Les voyages sont trop lointains et trop chers. Et il va passer ses vacances avec un compagnon dont il fera la fortune plus tard, qui est Antoine Malvin de Montazé, donc qui sera le futur archevêque de Lyon, qui n'avait à l'époque pas plus la vocation que lui. Et ils vont, depuis le séminaire d'ici, ils n'avaient qu'une culotte. Alors il paraît qu'il sortait un soir sur deux en se prêtant cette culotte. Et ils vont fréquenter un peu la bohème l'été. Ils vont fréquenter la bohème parisienne, les cabarets de la Croix-Rouge, l'actuelle rue de Rennes à Paris, où ils vont et fréquenter ce que Brigitte Levelle avait bien étudié, qui étaient les cabarets chantants et sonnants, où ils vont connaître un peu la jeunesse libertine, pas libertine, mais enfin la jeunesse un peu en marge. Et c'est très curieusement pendant ce temps de séminaire qu'il va avoir ses premiers contacts avec les poètes parisiens.
Bernice semble jeune homme constamment tiraillé entre l'appel de Dieu et le goût du monde et des plaisirs, sans parler d'un besoin de réussir, autant pour lui que pour sa famille impécunieuse. Il va réussir à entrer dans les bonnes grâces de Madame de Pompadour, qui est alors au début de sa faveur, et par elle il approchera Louis XV. Il va intégrer le fameux secret du roi et commencer une grande carrière de diplomate qui finira par le conduire au ministère des Affaires étrangères.
Voilà, alors il y a toute une partie, c'est que peu à peu, par ses poèmes, qui sont des poèmes toujours faciles, toute l'œuvre poétique de Bernice tient dans un carnet de 100 pages, et c'est ça qui va lui permettre d'être élu à l'Académie française. Mais il va savoir toujours, par sa politesse, par sa grâce, s'attirer... Les grâces des femmes à la mode. Alors, il va s'attirer des grâces de Madame Dupin, qui est extrêmement importante, qui va le recevoir dans ce qui est actuellement l'hôtel Lambert à Paris. Et il va s'attirer par elle les grâces de tous les de poètes comme Duclos, Pont-de-Veil, comme effectivement l'abbé France Fusée de Voisenon, qui vont le faire connaître par un de ses poèmes qui est Les Dieux Pénates. Les Dieux Pénates vont même le faire connaître de Voltaire. Et c'est par là qu'il va s'approcher de cette société parisienne intellectuelle, qu'il va une ou deux fois aller dans le salon de Madame Geoffrin, mais s'arrêter plutôt que chez Madame Geoffrin à l'entresol, chez la fille de Madame Geoffrin, qui mène une société beaucoup plus drôle, qui s'appelle la marquise de la Ferté-Imbault. Et c'est là, la première fois, dans cette société assez, assez drôle, qui est une société où elle a fondé un ordre qui s'appelle l'ordre des Lanturlus, qu'il va rencontrer pour la première fois celle qui n'est pas encore Madame de Pompadour, c'est-à-dire Madame Poisson, qui est à l'époque Madame d'Étiolles. Et c'est cette fréquentation qu'il va petit à petit mener, qui va en 1745, quand Madame de Pompadour devient la maîtresse du roi, au cours du fameux été où c'est au cours du mariage de... le premier mariage du dauphin avec une infante d'Espagne, que pour la première fois le doigt de Madame de Pompadour au cours du fameux bal des Ifs va toucher le doigt de Louis XV et qu'elle va devenir très rapidement la maîtresse du roi, que le jeune Bernice va être un peu mandaté pendant 6 mois pour lui apprendre à Étiolles un peu les bonnes manières, les manières de la cour qu'il a acquise par sa fréquentation du monde parisien jusque-là.
L'abbé de Bernice, qui est un titre de pure courtoisie, n'a été que tonsuré quand il était extrêmement jeune, éprouve cependant, malgré cette grande réussite, une sorte de mal-être intime. C'est l'impression qu'on éprouve en vous lisant, Jean-Paul Desprats. Déjà à Venise en 1755, il semble saisi de scrupules religieux, il est alors ambassadeur de France, et il reçoit le sous-diaconat. En 1758, Rome lui octroie le chapeau de cardinal. Il n'est toujours pas prêtre, mais à l'époque, il existe des cardinaux laïcs. Mazarin n'a jamais été prêtre. Cet honneur marque cependant le début de sa disgrâce politique, puisqu'il est chassé du ministère. En 1760, il décide de recevoir la prêtrise. Il a quand même 45 ans. Qu'est-ce qui le conduit, après cette carrière laïque, à entrer définitivement dans les ordres ?
Alors, la vie de Bernice est entrecoupée de périodes, je dirais, de futilité et de foi profonde. Et c'est un être qui est souvent menacé de dépression. On le voit, si on remonte un peu plus haut, en 1739, par exemple, alors que il est une des étoiles montantes du monde parisien, du monde poétique, entre Madame de Tencin, Madame Dupin, Madame d'Étiolle, qu'il va connaître très rapidement, il a tout d'un coup, comme ça, une première crise mystique qui va l'amener à partir pendant 18 mois à Brioude. Brioude, la collégiale de Brioude, pour ceux qui la connaissent, c'est un endroit magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits, un des plus beaux bâtiments religieux de France, avec son pavement qui est fait de cailloux de l'Allier. Mais il faut reconnaître que la vie, en plein hiver, là, est quelque chose de rude. Et il va passer plusieurs saisons dans cette collégiale de Brioude avant de revenir et de s'occuper, et c'est ce qui va faire sa grande occupation mondaine, de s'occuper du théâtre, du fameux théâtre des petits cabinets, quand Madame de Pompadour sera installée à Versailles. Et ensuite, on voit aussi, vous avez évoqué l'épisode de Venise. Alors cet épisode de Venise, évidemment, c'est un épisode à la fois scandaleux, parce qu'il faut lire toute l'histoire de Bernice à Venise et racontée dans Casanova, avec la maîtresse et l'échange entre Casanova et Bernice, des maîtresses qui sont des moniales d'un couvent de Venise. Et l'épisode de Venise se termine aussi, c'est le moment où il prend le sous-diaconat, par une nouvelle dépression qui fait que les 6 derniers mois qu'il passe à Venise, il ne les passe pas à Venise mais sur la terre ferme, le long de la Brenta, et qu'il va revenir à Paris. Aussi, réaspiré de nouveau par un courant mondain, mais toujours avec ces périodes de doute qui vont l'amener à avoir des périodes de véritable, et qui sont comme les degrés de son accession dans l'Église. Alors là, on est passé un petit peu rapidement, effectivement, surtout le moment où la faveur va faire que au moment du renversement des alliances, qui est un des grandes césures politiques du XVIIIe siècle, il va devenir le principal conseiller de Louis XV sur la recommandation de Madame de Pompadour, et ensuite le premier ministre de la France. Et ça se termine effectivement avec les grands échecs militaires, Rosbach, etc., par un retrait qui va entraîner de nouveau, quand il va être exilé à Vic-sur-Aisne, un nouveau doute et une nouvelle période un peu mystique, un peu de retour sur soi-même, et qui va préluder à son grand travail religieux, qui va être la période où il va être archevêque d'Albi, où il va être un archevêque tout à fait exemplaire. Et ensuite, il va arriver à la période romaine, c'est la période où il a été l'hôtelier de l'Europe pendant 20 ans, l'ambassadeur extraordinaire de la France à Rome.
Jean-Paul Desprats, je rappelle que vous êtes le biographe du cardinal de Bernice, un très beau livre sur ce personnage oublié, méconnu et pourtant extrêmement séduisant, extrêmement sympathique, un ouvrage paru chez Perrin il y a 19 ans. Merci encore de votre participation à cette émission.
Merci à vous.